Chapitre 45. Shadesmar. Yelignar, que l'on appelait Vent du Chaos, était celui qui savait parler comme un homme, bien que sa voix soit souvent accompagnée par les hurlements de ceux qu'il consumait. Les incréés, de toute évidence, étaient des inventions du folklore. Curieusement, la plupart n'étaient pas considérés comme des individus, mais des incarnations personnifiées de formes de destruction. Cette citation provient de Traxil, ligne 33, considérée comme une source capitale, bien que je doute de son authenticité. Ils forment un groupe étrangement accueillant, ces parches sauvages, lut Chalan. C'était de nouveau le récit du roi Gavilar, consigné un an avant son meurtre. Il s'est écoulé près de 5 mois depuis notre première rencontre. Dalinar insiste toujours pour que je regagne notre patrie, affirmant que l'expédition se prolonge trop. Les parches ont promis de m'emmener chasser une bête magnocoque qu'ils appellent un houlot masvara, ce que mes érudites traduisent grossièrement par « monstre des gouffres ». Si leurs descriptions sont fidèles, ces créatures possèdent de grands cœurs de gemmes et leur tête ferait un trophée extrêmement impressionnant. Ils parlent également de leur dieu redoutable et nous pensons qu'ils doivent faire référence à plusieurs magnocoques, des gouffres particulièrement massifs. Nous sommes ébahis de découvrir une religion chez ces parches, la preuve croissante d'une société parche complète, avec une civilisation, une culture et une langue unique et stupéfiante. Mes fulgiciens se sont mis à appeler ce peuple les Parchendi. De toute évidence, ce groupe est très différent de nos serviteurs parches ordinaires et n'appartient peut-être pas à la même espèce, malgré les motifs de leur peau. Peut-être s'agit-il de cousins éloignés, comme les H-Dog Aleti le sont pour la race Selayenne. En découvrant nos serviteurs, les Parchendi ont semblé déconcertés. « Où est leur musique ?» me demande souvent Clad. J'ignore ce qu'il veut dire, mais nos serviteurs n'ont aucune réaction face aux Parchendi, ne semblent pas intéressés par l'idée de les imiter, ce qui est rassurant. La question concernant la musique est peut-être liée à ces chants et fredonnements auxquels se livrent souvent les Parchendi. Ils ont une troublante capacité à produire de la musique ensemble. Je jure que j'ai laissé un Parchendi en train de chanter pour lui-même, puis que j'en ai peu après croisé un autre trop éloigné pour avoir entendu le premier, mais qui chantait pourtant exactement la même chanson, sur un tempo, un air et des paroles étrangement proches du précédent. Le tambour est leur instrument de prédilection. Ils sont de conception grossière, avec des empreintes de main à la peinture sur les côtés. Ils sont dans la lignée de leurs bâtiments très simples, qu'ils bâtissent de pierre et de crémons. Ils les construisent dans des formations rocheuses semblables à des cratères en lisière des plaines brisées. Quand je demande à Clad s'il redoute les tempêtes majeures, il se contente d'éclater de rire. Pourquoi s'inquiéter? Si les bâtiments se font détruire, nous pouvons les reconstruire, n'est-ce pas? De l'autre côté de l'alcôve, le livre de Jasna émit un bruissement lorsqu'elle tourna une page. Chalan reposa son propre livre, puis parcourut ceux qui étaient posés sur son bureau. Sa formation en philosophie étant terminée pour l'instant, elle avait repris ses recherches concernant le meurtre du roi Gavilar. Elle tira un petit ouvrage du bas de la pile, un compte-rendu dicté par le fulgicien Matin, l'un des érudits qui avait accompagné le roi. Chalan feuilleta le livre en quête d'un passage précis. C'était une description du tout premier groupe de chasseurs Parchendi qu'ils avaient rencontré. L'événement se produisit alors que nous avions installé notre camp près d'un fleuve profond dans une zone densément boisée. C'était un emplacement idéal pour un campement prolongé, car la densité des nusseliers nous protégerait des vents des tempêtes majeures et la gorge du fleuve éliminait le risque d'inondation. Sa Majesté suivait généralement mon conseil et envoyait des groupes d'éclaireurs en amont comme en aval. Les éclaireurs du Haut-Prince Dalinar furent les premiers à rencontrer ces étranges parches non domestiquées. Lorsqu'il revint au camp nous en faire le récit, je refusais, comme beaucoup, de croire à ses affirmations. Le clarissime Dalinar avait simplement dû tomber sur les serviteurs parches d'une autre expédition semblable à la nôtre. Lorsqu'ils rendirent visite à notre camp le lendemain, il nous fut impossible de nier leur réalité. Ils étaient 10, des parches sans doute possibles, mais plus grands que ceux que nous connaissions. Certains avaient la peau marbrée de rouge et de noir, et d'autres de rouge et de blanc, ce qui est plus courant en Aletkar. Ils portaient des armes magnifiques, dont l'acier luisant était gravé de décorations complexes, mais des vêtements simples de tissu de narbin. Peu de temps après, Sa Majesté développa une fascination pour ces étranges parches, insistant pour que je me mette à étudier leur langue et leur société. J'avouerai que mon intention première était de dévoiler qu'il s'agissait d'un canular de quelque sorte. Cependant, plus nous en apprenions, plus je commençais à comprendre à quel point mon estimation initiale avait été fausse. Shallan tapota la page, pensive. Puis elle sortit un ouvrage épais intitulé « Sa Majesté Gavilar Colline, biographie », publié par la veuve de Gavilar, Navani, 2 ans auparavant. Shallan parcourut les pages en quête d'un passage précis. Mon époux était un excellent roi, dirigeant stimulant, duelliste hors pair et génie tactique du champ de bataille. Mais il n'avait pas un seul doigt érudit à la main gauche. Il ne témoigna jamais le moindre intérêt pour la prédiction des tempêtes majeures. Les discussions scientifiques l'ennuyaient, et il ignorait les fabriaux à moins qu'il ne possède un usage évident au combat. C'était un homme bâti selon l'idéal masculin classique. « Pourquoi est-ce qu'il s'y intéressait tellement ?» demanda Shallan tout haut. « demanda Jasna. Le roi Gavilar, précisa Shallan. Dans sa biographie, votre mère affirme qu'il n'était pas un érudit. C'est vrai. Mais il s'intéressait vraiment aux Parchendi, poursuivit Shallan. Même avant qu'il ait pu apprendre l'existence de leur lame d'éclat. D'après le récit de Matin, il voulait en savoir plus sur leur langue, leur société et leur musique. Est-ce que ce n'est qu'un enjolivement pour le faire paraître plus érudit au lecteur futur? Non, répondit Jasna en baissant son propre livre. Plus il demeurait dans les collines inconquises, plus les Parchendi le fascinaient. Donc il y a divergence. Pourquoi est-ce qu'un homme ne présentant auparavant aucun intérêt pour le savoir est-il soudain devenu obsédé à ce point? Oui, répondit Jasna. Moi aussi je me suis posé cette question. Mais parfois les gens changent. À son retour, son intérêt m'a encouragé. Nous avons passé de nombreuses soirées à parler de ses découvertes. C'était l'un des rares moments où j'ai eu le sentiment de nouer un lien véritable avec mon père. Shallan se mordit la lèvre. Jasna, demanda-t-elle enfin, pourquoi m'avez-vous chargé de faire des recherches sur cet événement? Vous l'avez vécu. Vous connaissez déjà tout ce que je suis en train de découvrir. J'ai l'intuition qu'un point de vue nouveau pourrait se révéler précieux. Jasna posa son livre et regarda Shallan. Je ne m'attends pas à ce que vous trouviez de réponses spécifiques. En revanche, j'espère que vous prêterez attention à des détails qui m'ont échappé. Vous commencez à percevoir de quelle manière la personnalité de mon père avait changé lors de ces quelques mois, ce qui signifie que vous cherchez en profondeur. Croyez-le ou non, mais peu d'autres ont remarqué la divergence que vous venez d'observer, bien que beaucoup aient noté sa transformation plus tard, après son retour à Kolinar. Malgré tout, je trouve un peu étrange d'étudier ce sujet. Peut-être que je suis toujours influencée par l'idée de mes tutrices, selon laquelle seuls les classiques sont un domaine d'étude approfondie pour les demoiselles. Les classiques ont bel et bien leur place, et je vous dirigerai vers des œuvres classiques à l'occasion, comme je l'ai fait avec votre étude sur la moralité. Mais j'ai l'intention que ces digressions soient complémentaires de vos projets actuels. Ceux-là doivent en être l'objectif, pas des énigmes historiques perdues depuis longtemps. Shallan hocha la tête. Mais Jasna, est-ce que vous n'êtes pas historienne? Est-ce que ces énigmes historiques perdues depuis longtemps ne constituent pas la substance de votre domaine? Je suis vériste italienne, répondit Jasna. Nous cherchons des réponses dans le passé. Reconstruisons ce qui s'est réellement produit. Aux yeux de beaucoup, écrire un ouvrage historique ne consiste pas à dire la vérité, mais à présenter le tableau le plus flatteur possible d'eux-mêmes et de leurs motifs. Mes sœurs et moi choisissons des sujets qui nous semblent avoir été mal compris ou mal représentés, et en les étudiant, nous espérons mieux comprendre le présent. Pourquoi dans ce cas passez-vous tellement de temps à étudier des contes populaires et à chercher des esprits maléfiques? Non, Jasna cherchait quelque chose de réel, d'assez important pour la tenir à l'écart des plaines brisées et du combat destiné à venger son père. Elle comptait faire quelque chose de ces contes populaires, et les recherches de Shallan en faisaient partie, d'une manière ou d'une autre. c'était exaltant. Le genre de choses dont elle rêvait depuis l'enfance. Alors qu'elle parcourait les quelques livres de son père, frustrée qu'il ait chassé une tutrice après l'autre. Ici, aux côtés de Jasna, Shalan faisait partie de quelque chose, et connaissant Jasna, c'était quelque chose d'énorme. Et pourtant, se dit-elle, le navire de Tosbeck arrive demain matin. Je vais partir. Il faut que je commence à me plaindre. Je dois convaincre Jasna que tout ça a été beaucoup plus difficile que je ne m'y attendais, de sorte qu'elle ne soit pas surprise de mon départ. Je dois pleurer, craquer, renoncer. Je dois... Où se trouve Oritirou ? S'entendit-elle demander à la place. À sa grande surprise, Jasna répondit sans hésiter. On racontait qu'Oritirou se trouvait au cœur des royaumes d'argent et qu'elle possédait 10 trônes, un pour chaque roi. C'était la ville la plus majestueuse, la plus stupéfiante, la plus importante du monde entier.
Vraiment ? Pourquoi est-ce que je n'en ai jamais entendu parler ?
Parce qu'elle s'est retrouvée abandonnée avant même que les radieux enfuis ne se retournent contre l'humanité. La plupart des érudits considèrent qu'il ne s'agit que d'un mythe. Les ardents refusent d'en parler, compte tenu de son association avec les radieux et donc avec le premier échec majeur du vorinisme. Une grande partie de ce que nous savons sur la ville provient de fragments d'œuvres perdues, citées par les érudits classiques. Une grande partie de ces œuvres classiques n'ont elles-mêmes survécu que par bribes. En effet, l'unique œuvre complète que nous possédions de cette époque lointaine est la Voix des Rois, et uniquement grâce aux efforts des Van Rial. Shalan hocha lentement la tête. Si les ruines d'une magnifique cité ancienne sont cachées quelque part, c'est Natanatan, sauvage, inexploré, envahi par la végétation, qui me semblerait l'endroit le plus naturel où les trouver.
Oritirou ne se trouve pas à Natanatan, répondit Jasna en souriant.
Mais c'est une bonne hypothèse, Shalan. Revenez à vos recherches.
Les armes, dit Shalan.
Jasna haussa les sourcils.
Les Parchendi, ils portaient des armes splendides d'acier gravé. Mais ils utilisaient des tambours de peau avec des empreintes de mains grossières sur les côtés et vivaient dans des cabanes de pierre et de crémons. Vous ne trouvez pas ça incongru ?
Oui, sans aucun doute. Je qualifierais ça de singulier.
Dans ce cas...
Je vous assure, Shalan, répondit Jasna, que la cité ne se trouve pas là.
Pourtant, vous vous intéressez bien aux plaines brisées. Vous en avez parlé avec le clarissime Dalinar par le biais de l'écocalame.
En effet.
Qu'étaient réellement les néantifères ?
À présent que Jasna répondait vraiment, elle le lui apprendrait peut-être.
Qu'était-il en réalité ?
Jasna l'étudia avec une expression curieuse. Personne ne le sait avec certitude. La plupart des érudits les considèrent, à l'instar d'Oritirou, comme de simples mythes, alors que les théologiens les acceptent comme les équivalents du Tout-Puissant. Des monstres qui habitaient le cœur des hommes, un peu comme le Tout-Puissant y vivait autrefois.
Mais...
Reprenez vos recherches, mon enfant, l'interrompit Jasna en levant son livre. Nous en reparlerons peut-être une autre fois. Le ton était sans réplique. Shalan se mordit la lèvre pour s'empêcher de dire quelque chose de grossier, à seule fin de ramener Jasna à la conversation.
Elle n'a pas confiance en moi, se dit Shalan.
Peut-être avec raison.
Tu pars demain, se répéta-t-elle. Demain, tu vas t'en aller loin de tout ça.
Mais ça signifiait qu'il ne lui restait plus qu'un jour. Un seul jour dans l'immense palanée. Un seul jour avec tous ses livres, tout ce pouvoir et ce savoir.
J'aurai besoin d'un exemplaire de la biographie de votre père par Tiffandor, dit Shalan en parcourant les livres. J'y vois constamment des références.
Il se trouve à l'un des étages inférieurs, répondit distraitement Jasna. Je dois pouvoir vous en trouver le numéro de référencement.
Pas la peine, répondit Shalan en se levant. Je vais aller le chercher. J'ai besoin de m'exercer.
Comme vous le souhaitez, dit Jasna. Shalan sourit. Elle savait très bien où se trouvait le livre, mais faire semblant de le chercher lui fournirait un peu de temps loin de Jasna. Et pendant ce temps, elle verrait ce qu'elle pourrait découvrir par elle-même sur les néantifères.
2 heures plus tard, Shalan était assise à un bureau encombré au fond de l'une des pièces du niveau inférieur du palanais, avec sa lanterne à sphère qui éclairait une pile d'ouvrages rassemblés à la hâte,
dont aucun ne s'était révélé très utile. Tout le monde semblait savoir quelque chose sur les néantifères. Les gens des zones rurales en parlaient comme de mystérieuses créatures qui sortaient la nuit, volaient les malchanceux et punissaient les idiots. Ces néantifères-là semblaient davantage espiègles que maléfiques. Mais il y avait, de temps en temps, un récit isolé sur un néantifère prenant la forme d'un voyageur égaré qui, après avoir reçu l'hospitalité d'un cultivateur de tel lieu, massacrait sa famille entière, buvait son sang, puis traçait des symboles néantiques sur les murs à la cendre noire. La plupart des gens des villes, en revanche, considéraient les néantifères comme des esprits qui rôdaient la nuit. Une sorte de sprène maléfique qui envahissait le cœur des hommes et les poussait à commettre des actes affreux. Quand un homme bon se mettait en colère, c'était l'œuvre d'un néantifère. Les érudits se moquaient de toutes ces idées. Les récits historiques concrets, ceux qu'elle était parvenue à trouver rapidement, se contredisaient. Les néantifères étaient-ils les habitants de la damnation? Dans ce cas, ne serait-elle pas vide à présent que les néantifères avaient conquis la cité Sérénide et chassé l'humanité vers Auchard? J'aurais dû me douter que j'aurais du mal à trouver quoi que ce soit de concret, se dit Shallan en se laissant aller sur son siège. Jasna étudie le sujet depuis des mois, peut-être des années. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver en quelques heures? Ses recherches n'avaient réussi qu'à accroître sa confusion. Quel vent errant avait bien pu conduire Jasna vers ce sujet? C'était absurde. Étudier les néantifères revenait à tenter de déterminer si les sprennes de mort étaient réelles ou non. À quoi bon? Elle secoua la tête en empilant ses livres. Les ardents les remettraient en place pour elle. Elle devait aller chercher la biographie de Tiffandor et regagner leur balcon. Elle se leva et se dirigea vers la sortie de la pièce, portant sa lanterne de sa libre main. Elle n'avait pas amené de parche. Elle comptait ne rapporter que ce livre. Alors qu'elle atteignait la sortie, elle vit une autre lumière approcher sur le balcon. Juste avant qu'elle n'arrive, quelqu'un s'approcha de la porte, brandissant une lanterne à grenat. « Kabzal ?» demanda Shallan, surprise de voir son visage juvénile que la lumière peignait en violet. « Shallan ? » dit-il en levant les yeux vers la pancarte surmontant l'entrée. « Que faites-vous ici ? Jasna m'a dit que vous cherchiez Tiffandor. Je me suis laissé détourner. » Il la regarda en haussant les sourcils. « Je mens donc si mal ? » demanda-t-elle. « Atrocement mal, » dit-il. « Vous êtes deux étages trop haut et un millier de numéros de référence trop loin. Comme je ne vous trouvais pas en bas, j'ai demandé au valet d'ascenseur de me conduire là où il vous avait emmené, et ils m'ont conduite ici. » « La formation de Jasna peut se montrer épuisante, » expliqua Shallan. « Alors, parfois, j'aime trouver un coin calme ou reprendre mes esprits. C'est le seul moment que je puisse passer seule. » Kabzal hocha la tête d'un air songeur. « C'est mieux ?» demanda-t-elle. « Toujours problématique. Vous avez fait une pause, mais pendant 2 heures ? Par ailleurs, je me rappelle vous avoir entendu dire que la formation de Jasna n'était pas si terrible que ça. « Elle me croirait, » dit Shallan. « Elle pense être beaucoup plus exigeante qu'elle ne l'est en réalité. Enfin, elle est exigeante. C'est seulement que ça ne me dérange pas autant qu'elle le croit. » « Très bien, » répondit-il. « Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous faisiez ici ?» Elle se mordit la lèvre, ce qui le fit éclater de rire. « Quoi ?» demanda-t-elle en rougissant. « Vous semblez tellement innocente quand vous faites ça. » « Mais je suis innocente. Vous ne venez pas de me mentir 2 fois de suite. Innocente comme le contraire de sophistiquée. » Elle fit la grimace. « Autrement, mes mensonges auraient été plus convaincants. Venez. « Accompagnez-moi pendant que je vais chercher Tiffandor. Si nous nous dépêchons, je n'aurai pas besoin de mentir à Jasna. »«
Très bien, »
répondit-il en la rejoignant pour contourner le palané. La pyramide inverse et creuse s'élevait vers le plafond, loin au-dessus d'eux, et les 4 murs se déployaient, inclinés vers l'extérieur. Les niveaux supérieurs étaient mieux éclairés et plus faciles à distinguer, et des lumières minuscules y rebondissaient le long des rampes entre les mains d'ardents ou d'érudits.
« 57 niveaux !» dit Shallan. Je n'imagine même pas la quantité de travail qu'il a fallu pour créer tout ça.
Nous ne l'avons pas créé, dit Kabzal. C'était ici. Le puits principal, du moins. Les Carbrantiens ont taillé les salles destinées aux livres.
C'est une formation naturelle?
Aussi naturelle que les cités comme Collinard. À moins que vous n'ayez oublié ma démonstration.
Non,
Mais pourquoi n'avez-vous pas utilisé cet endroit comme l'un de vos exemples ?
Nous n'avons pas encore trouvé le bon motif de sable, répondit-il. Mais nous sommes certains que c'est le Tout-Puissant en personne qui a créé cet endroit, tout comme les villes.
Et les chanteurs de l'aube ? Demanda Shallan.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?
Est-ce qu'ils pourraient l'avoir créé ? Il gloussa tandis qu'ils atteignaient l'ascenseur.
Ils ne faisaient pas ce genre de choses.
C'était des guérisseurs, des sprennes bienveillants envoyés par le Tout-Puissant pour s'occuper des humains après qu'on nous avait chassés de la cité Sérénide. Un peu comme l'inverse des néantifères.
J'imagine qu'on peut dire ça.
Faites-nous descendre de deux niveaux, demanda-t-elle au valet d'ascenseur Parche. Ils firent descendre la plateforme, tandis que les poulies grinçaient et que le bois tremblait sous ses pieds.
Si vous pensez me distraire par cette conversation,
commenta Kabzal en croisant les bras et en s'appuyant contre la rambarde,
vous n'y arriverez pas. J'ai passé plus d'une heure là-haut, assis auprès de votre maîtresse mécontente. Et permettez-moi de vous dire que ça n'a pas été une expérience agréable.
Je crois qu'elle sait que je cherche toujours à la convertir.
Bien sûr qu'elle le sait. C'est Jasna. Elle sait quasiment tout.
À part ce qu'elle vient étudier ici. Quoi que ça puisse être.
Les néantifères, dit Shallan. Voilà ce qu'elle étudie.
Il fronça les sourcils. Quelques instants plus tard, l'ascenseur s'arrêta au niveau adéquat.
Les néantifères ? Demanda-t-il l'air curieux.
Elle se serait attendue à le voir méprisant ou amusé.
Non, se dit-elle. C'est un ardent. Il y croit.
Qu'est-ce qu'ils étaient ? Demanda-t-elle en sortant. Non loin d'eux, en contrebas, la grotte immense formait une pointe. Un gros diamant infusé s'y trouvait, indiquant le nadir.
Nous n'aimons pas en parler,
répondit Kabzal en la rejoignant.
Pourquoi donc ? Vous êtes un ardent. Ça fait partie de votre religion.
Une partie pas très populaire. Les gens préfèrent entendre parler des 10 attributs divins ou des 10 failles humaines. Nous satisfaisons à leurs demandes, car nous préférons, nous aussi, parler de ces choses-là plutôt que du passé lointain.
Parce que ? Insista-t-elle.
Parce que ? Dit-il en soupirant. Ça revient à parler de notre échec. Shallan, les dévotaires, au plus profond d'eux-mêmes, relèvent toujours du vorénisme classique. Ce qui signifie que la hiérocratie et la chute des radieux enfuis sont notre honte. Il leva sa lanterne d'un bleu soutenu. Shallan marchait d'un pas nonchalant à ses côtés, curieuse, se contentant de le laisser parler.
Nous croyons que les néantifères étaient réels, Shallan.
Un authentique fléau. 100 fois, ils s'en sont pris l'humanité. D'abord en nous chassant de la cité Sérénide, puis en cherchant à nous détruire, ici, en Rochard. Ce n'étaient pas de simples sprennes qui se cachaient sous les rochers, puis s'en allaient voler la lessive des gens. C'étaient des créatures d'une redoutable puissance destructrice, forgées dans la damnation, nées de la haine.
Par qui ? Demanda Shallan.
Pardon ?
Qui les a forgées ? Enfin, j'imagine mal le Tout-Puissant forger quelque chose à partir de la haine. Donc, qui les a forgés ?
Chaque chose a son contraire, Shallan. Le Tout-Puissant est une force du bien. Pour équilibrer cette bonté, le Cosmère a besoin des néantifères pour incarner le contraire.
Donc, plus le Tout-Puissant faisait le bien, plus il créait de mal en conséquence ? À quoi bon faire le bien si ça ne sert qu'à créer davantage de mal ?
Je vois que Jasna a continué à vous former en philosophie.
Ce n'est pas de la philosophie, répliqua Shallan. C'est de la logique pure et simple.
Il soupira.
Je ne crois pas que vous aimeriez vous plonger dans la théologie profonde de cette question. Je me contenterai de dire que la bonté pure du Tout-Puissant a créé les néantifères, mais que les hommes peuvent choisir le bien sans créer le mal, parce qu'ils possèdent, en tant que mortels, une nature double. Ainsi, le seul moyen pour que le bien augmente dans le Cosmère, c'est que les hommes le créent. De cette façon, le bien pourra finir par l'emporter sur le mal.
D'accord, dit-elle. Mais je n'adhère pas à cette explication sur les néantifères.
Je pensais que vous étiez croyante.
Oui, je le suis. Mais ce n'est pas parce que j'honore le Tout-Puissant que je vais accepter n'importe quelle explication, Kabzal. C'est peut-être une religion, mais encore faut-il qu'elle ait un sens.
Est-ce que vous ne m'avez pas dit un jour que vous ne vous compreniez pas vous-même ?
Eh bien oui.
Et cependant, vous voulez être capable de comprendre le fonctionnement exact du Tout-Puissant. »
Elle pinça les lèvres.
« D'accord, très bien. Mais je veux toujours en apprendre davantage sur les néantifères. »
Il haussa les épaules tandis qu'elle le guidait vers une salle d'archives remplie d'étagères de livres.
« Je vous ai parlé des bases, Shallan. Les néantifères étaient une incarnation du mal. Nous les avons repoussés 99 fois, guidés par les héros et leurs chevaliers élus, les 10 ordres que nous appelons les chevaliers radieux. Puis est survenu Ahar Yetiam, l'ultime désolation. Les néantifères ont été repoussés vers la cité sérénide. Les héros les ont suivis pour les chasser ensuite du paradis, et les âges héraldiques de Rochar ont pris fin. L'humanité est entrée dans l'ère de solitude, l'ère moderne.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne possède que des fragments épars d'avant tout ça ?
Ça remonte à des milliers et des milliers d'années, Shallan, dit Kabzal. Avant l'histoire, avant même que les hommes ne sachent forger l'acier, il a fallu nous donner des lames d'éclat. Autrement, nous aurions dû combattre des néantifères avec des gourdins. Et pourtant, nous avions les royaumes d'argent et les chevaliers radieux, formés et menés par les héros.
Shallan fronça les sourcils, comptant les rangées d'étagères. Elle s'arrêta devant la bonne, tendit sa lanterne à Kabzal, puis remonta la rangée et prit la biographie sur l'étagère.
Kabzal la suivit, portant la lanterne.
« Il doit y avoir autre chose, » reprit Shallan. « Autrement, Jasna ne ferait pas de recherche aussi poussée. »«
Je peux vous dire pourquoi elle le fait, » répondit-il.
Shallan le regarda.
« Vous ne comprenez pas ?» dit-il.
« Elle essaie de prouver que les néantifères n'existaient pas. Elle veut démontrer que tout ça n'était qu'une invention des radieux. »
Il s'avança et se retourna pour lui faire face. Et la lumière de la lanterne ricocha sur les livres des deux côtés, teintant son visage d'une lueur pâle. « Elle veut prouver une bonne fois pour toutes que les dévotaires, ainsi que le vorinisme, sont une gigantesque escroquerie. Voilà ce dont il s'agit. »
« Peut-être, » répondit Shallan songeuse.
Ça semblait coller. Quel meilleur objectif pour une hérétique déclarée ? Détruire les fondements de croyances idiotes et démontrer la fausseté de la religion ? Ça expliquerait pourquoi Jasna étudiait quelque chose d'apparemment aussi insignifiant que les néantifères. Si elle trouvait la preuve adéquate dans les textes historiques, Jasna parviendrait peut-être à prouver qu'elle avait raison.
N'en avons-nous pas déjà subi assez ? Demanda Kabzal, un éclat furieux dans le regard. Les ardents ne représentent aucune menace pour elle. Nous ne menaçons personne ces jours-ci. Nous ne pouvons rien posséder. Damnation, nous sommes nous-mêmes une possession. Nous dansons selon les caprices des bourgmestres et des chefs de guerre, en craignant de leur dire la vérité de leurs péchés par crainte du châtiment. Nous sommes des pâles échines, sans griffes ni défense, et l'on attend de nous qu'on s'asseye aux pieds de nos maîtres et qu'on leur offre des louanges. Et pourtant, c'est vrai. Tout ça est vrai. Et ils nous ignorent, et... »
Il s'interrompit soudain et la regarda, lèvres serrées, mâchoire crispée. Elle n'avait jamais vu une telle ferveur, une telle fureur chez cet aimable ardent. Elle ne l'en aurait pas cru capable.
« Je suis désolé, » dit-il en se détournant d'elle pour la reconduire le long de la rangée.
« Ne vous en faites pas, » répondit-elle en se hâtant pour le suivre, soudain déprimée.
Shallan s'était attendu à trouver quelque chose de plus grandiose, de plus mystérieux, derrière les recherches secrètes de Jasna. Se pouvait-il que tout ça ne serve réellement qu'à prouver que le vorinisme avait tort ? Ils marchèrent en silence jusqu'au balcon. Et là, elle comprit qu'elle devait le lui dire.
Kabzal, je vais partir.
Il la regarda surpris.
J'ai reçu des nouvelles de ma famille, dit-elle. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il m'est impossible de rester plus longtemps.
C'est lié à votre père ?
Pourquoi ? Vous avez entendu quelque chose ?
Seulement qu'il est reclus depuis quelque temps, plus que d'ordinaire.
Elle réprima un tressaillement. Les nouvelles étaient donc arrivées si loin. Je suis désolée de partir si soudainement.
Vous allez revenir ?
Je n'en sais rien.
Il la regarda dans les yeux, inquisiteur. Savez-vous quand vous allez partir ? Demanda-t-il d'une voix soudain glaciale.
Demain matin.
Très bien, dit-il. Voulez-vous au moins me faire l'honneur de me dessiner? Vous n'avez jamais fait mon portrait, bien que vous en ayez fait beaucoup des autres ardents.
Elle sursauta en comprenant qu'il avait raison. Malgré le temps qu'ils avaient passé ensemble, elle n'avait jamais dessiné Kabzal.
Elle porta sa libre main à sa bouche.
« Je suis désolée. »
Il sembla décontenancé. « Je ne disais pas ça par amertume, Shalan. Ce n'est pas si important en réalité. »«
Mais si, » répondit-elle en lui prenant la main pour l'entraîner vers le couloir. « J'ai laissé mon matériel de dessin là-haut. Venez. »
Elle l'entraîna précipitamment vers l'ascenseur et demanda aux parches de les faire monter. Tandis qu'ils commençaient leur ascension, Kabzal regarda la main de Shalan dans la sienne. Elle s'empressa de la laisser retomber.
« Vous êtes une femme extrêmement déroutante, » dit-il avec raideur.
« Je vous avais prévenu. »
Elle tint contre sa poitrine le livre qu'elle était allée chercher.
« Je croyais que vous aviez fini par me comprendre. »
« Je retire cette déclaration. »
Il la regarda.
« Vous partez vraiment ?»
Elle hocha la tête.
« Je suis désolée, Kabzal. Je ne suis pas ce que vous croyez.
Je crois que vous êtes une femme belle et intelligente.
Eh bien, vous avez au moins raison de croire que je suis une femme.
Votre père est malade, n'est-ce pas ?
Elle ne répondit pas.
Je comprends bien que vous puissiez vouloir retourner à ses côtés, dit Kabzal.
Mais vous n'allez tout de même pas abandonner votre formation à jamais. Vous allez revenir auprès de Jasna.
Et elle ne va pas rester éternellement à Carbrandt. Elle a quasiment passé tout son temps à se déplacer d'un endroit à un autre ces deux dernières années.
Il regarda fixement devant lui, l'avant de l'ascenseur, tandis qu'il montait. Bientôt, ils durent passer à un autre ascenseur pour qu'il les emmène au groupe d'étages suivant.
« Je n'aurais pas dû passer de temps avec vous, » dit-il enfin. « Les ardents supérieurs me trouvent trop distrait. Ils n'aiment pas quand l'un d'entre nous commence à regarder hors de l'ardence. »
Votre droit de courtiser est protégé.
Nous sommes une propriété. Les droits d'un homme peuvent être protégés en même temps qu'on le décourage de les exercer. J'ai évité le travail, désobéi à mes supérieurs. En vous courtisant, j'ai aussi courtisé les ennuis.
Je ne vous ai rien demandé de tout ça.
Vous ne m'avez pas découragé non plus. Elle n'avait rien à y répondre, mais éprouvait une inquiétude croissante.
Un soupçon de panique. Un désir de s'enfuir et d'aller se cacher.
Lors de ces années de quasi-solitude dans la propriété de son père, elle n'avait jamais rêvé d'une relation comme celle-ci.
Alors c'est de ça qu'il s'agit, se demanda-t-elle tandis que la panique montait en elle. Une relation.
En venant à Carbrandt, ses intentions semblaient tellement simples.
Comment en était-elle arrivée au point où elle risquait de briser le cœur d'un homme?
Elle s'avoua alors, à sa grande honte, que les recherches lui manqueraient davantage que Kabzal.
Était-elle quelqu'un de si mauvais pour ressentir ces choses-là?
Elle l'appréciait beaucoup. Il était agréable, intéressant. Alors qu'il la regardait, elle lisait un désir dans ses yeux.
Il semblait père des tempêtes. Il semblait vraiment amoureux d'elle.
N'aurait-elle pas dû, elle aussi, tomber amoureuse de lui?
Elle ne pensait pas l'être. Elle était simplement perdue.
Lorsqu'ils atteignirent le haut du système d'ascenseur du Palané, elle sortit dans le voile en courant pratiquement. Kabzal la suivit, mais il devait prendre un autre ascenseur pour rejoindre l'alcôve de Jasna, et elle se retrouva bientôt coincée avec lui une fois de plus. « Je pourrais vous accompagner ?» proposa Kabzal d'une voix douce. « Retournez à Jakéved avec vous. » La panique de Shalan s'accrut.
Elle le connaissait à peine.
Oui, ils avaient souvent discuté, mais rarement des choses importantes. S'il quittait l'ardence, il serait rétrogradé au 10e nan, presque aussi bas que le statut des sombres iris. Il se retrouverait sans argent ni foyer, dans une situation presque aussi terrible que celle de la famille de Shalan. Sa famille. Que diraient ses frères si elle leur ramenait un quasi-étranger? Un autre homme qui prendrait part à leurs problèmes, deviendrait informé de leurs secrets.
Je vois votre expression que ce n'est pas envisageable. Dit Kabzal. Il semble que j'ai mal interprété des choses très importantes.
Non, ce n'est pas ça,
s'empressa de répondre Shalan.
C'est seulement. Oh, Kabzal,
Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre mes actions alors que je ne les comprends pas moi-même ?
Elle lui toucha le bras pour le faire se retourner vers elle.
Je ne me suis pas montrée honnête envers vous, ni envers Jasna, ni même, ce qui est encore plus exaspérant, envers moi-même. Je suis désolée.
Il haussa les épaules, s'efforçant manifestement de feindre la nonchalance. Au moins, j'aurai un dessin, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête, tandis que l'ascenseur s'arrêtait enfin dans un soubresaut. Elle emprunta le couloir obscur, suivi par Kabzal portant les lanternes. Jasna leva les yeux d'un air appréciateur lorsque Shallan entra dans leur alcôve, mais ne demanda pas ce qu'il avait retenu si longtemps. Shallan se surprit à rougir en rassemblant son matériel de dessin. Kabzal hésita sur le pas de la porte. Il avait laissé sur le bureau un panier de pain et de confiture. Le dessus était toujours recouvert d'un linge. Jasna n'y avait pas touché, bien qu'il lui en propose toujours un peu en guise d'offrande de paix. Sans confiture, puisque Jasna détestait ça. « Où faut-il que je m'asseye ?» demanda Kabzal. « Restez debout, » répondit Shallan en s'asseyant, calant son carnet de croquis contre ses jambes et le maintenant en place de sa sage main couverte. Elle leva les yeux vers lui, appuyée d'une main au chambranle. Crâne rasé, drapé d'une robe gris clair, manches courtes, ceinture blanche nouée à la taille. Regard déconcerté. Elle cligna des yeux, capturant un souvenir, puis se mit à dessiner. Ce fut l'une des expériences les plus gênantes de sa vie. Comme elle n'avait pas informé Kabzal qu'il pouvait bouger, il garda la pose. Il ne disait rien. Peut-être craignait-il de gâcher l'image. Shallan vit que sa main tremblait tandis qu'elle dessinait. Mais elle parvint, fort heureusement, à retenir ses larmes. « Des larmes », se dit-elle tout en traçant les dernières lignes du mur autour de Kabzal. « Pourquoi est-ce que je devrais pleurer ? Ce n'est pas moi qui viens de me faire rejeter. Est-ce que mes émotions ne pourraient pas être logiques de temps en temps ?»« Tenez », dit-elle en dégageant la page pour la lui tendre. « Ça va s'étaler si vous ne le recouvrez pas de lac. » Kabzal hésita, puis s'approcha et lui prit le dessin d'un geste plein de déférence. « C'est magnifique », murmura-t-il. Il leva les yeux, puis se précipita vers sa lanterne, l'ouvrit et en tira le brome de grenat qu'elle contenait. « Tenez, » dit-il en la lui tendant, « votre paiement. Je ne peux pas l'accepter. Déjà, ce n'est pas à vous. » En tant qu'ardent, tout ce que portait Kabzal devait appartenir au roi. « Je vous en prie, » insista Kabzal. « Je veux vous donner quelque chose. »« Ce dessin est un cadeau, » dit-elle. « Si vous me le payez, alors je ne vous ai rien donné. »« Dans ce cas, je vous en commanderai un autre, » répondit-il en plaçant la sphère luisante dans la main de Shallan. « Je prendrai le premier portrait gratuitement, mais faites-moi un autre, s'il vous plaît. Un de nous deux ensemble. » Elle hésita. Elle se représentait rarement elle-même. C'était étrange à dessiner. « Très bien. » Elle accepta la sphère, puis la glissa furtivement dans sa sage bourse, près de son spiricante. C'était un peu curieux d'y transporter quelque chose d'aussi lourd, mais elle s'était habituée à sa masse et à son poids. « Jasna, est-ce que vous avez un miroir ? » demanda-t-elle. L'autre femme soupira bruyamment, visiblement agacée par cette distraction. Elle fouilla parmi ses affaires et en sortit un miroir. Kabzal alla le lui prendre. « Levez-le près de votre tête, » dit Shallan, « afin que je puisse me voir. » Il retourna à sa place et s'exécuta, l'air perplexe. « Inclinez-le légèrement sur le côté, » poursuivit-elle. « Comme ça, très bien. » Elle cligna des yeux pour fixer dans son esprit l'image de son propre visage près du sien. « Asseyez-vous. Vous n'avez plus besoin du miroir. C'était simplement pour information. » Curieusement, ça m'aide à placer mes propres traits dans la scène que je veux dessiner. Je vais me représenter assise à côté de vous. » Il s'assit par terre et Shallan se mit au travail, profitant de cette occasion pour se distraire de ses émotions conflictuelles. Culpabilité de ne pas éprouver pour Kabzal de sentiments aussi forts qu'il en avait pour elle, mais tristesse à l'idée de ne plus le voir. Et par-dessus tout, inquiétude pour le spiricante. Se dessiner aux côtés de Kabzal représentait un défi.
Elle travaillait furieusement, mêlant la réalité de Kabzal assis et une fiction d'elle-même dans sa robe brodée de fleurs, assise avec les jambes sur le côté. Le visage dans les miroirs devint son point de référence, et elle construisit sa tête tout autour. Trop étroite pour être belle, avec des cheveux trop clairs, des joues criblées de taches de son. « Le spiricante, » songea-t-elle. « C'est dangereux de me trouver à Carbrandt avec lui. Mais le laisser ici l'est tout autant. Se pourrait-il qu'il existe une troisième solution? Et si je le leur envoyais ?» Elle hésita, son crayon de charbon suspendu au-dessus de la page. Oserait-elle se séparer du Fabrial et l'envoyer à Jacques Évède, emballé, secrètement livré à Tosdek? Elle n'aurait pas à se soucier de se faire incriminer si l'on fouillait sa chambre ou sa personne, même s'il lui serait alors nécessaire de détruire tous les dessins qu'elle avait faits de Jasna avec le spiricante. Et elle ne courait pas le risque d'éveiller les soupçons en disparaissant quand Jasna découvrirait que son spiricante ne fonctionnait pas. Elle continua à dessiner, de plus en plus perdue dans ses pensées, laissant travailler ses doigts. Si elle renvoyait le spiricante seule, alors elle pourrait rester à Carbrandt. C'était une perspective idéale et tentante, mais qui précipitait ses émotions dans une confusion plus grande encore. Voilà si longtemps qu'elle se préparait à partir. Que ferait-elle au sujet de Kabzal et de Jasna? Shalan pouvait-elle réellement rester ici, en acceptant la tutelle que lui offrait gratuitement Jasna après ce qu'elle avait fait? Oui, se dit Shalan. Oui, je le pourrais. L'intensité de cette émotion la surprit. Elle vivrait avec cette culpabilité, jour après jour, si ça lui permettait de continuer à apprendre. C'était affreusement égoïste de sa part, et elle en avait honte, mais au moins le ferait-elle un peu plus longtemps. Bien sûr, elle finirait par devoir repartir. Elle ne pourrait pas laisser ses frères affronter seuls le danger. Ils avaient besoin d'elle. L'égoïsme suivi par le courage. Cette dernière émotion la surprit presque autant que la première. Elle les avait rarement associées à elle-même. Mais elle commençait à comprendre qu'elle n'avait jamais su jusqu'alors qui elle était. Pas avant qu'elle ne quitte Jacques Évède, et tout ce qui lui était familier, tout ce qu'elle était censée devenir. Elle dessinait avec une ferveur croissante. Elle termina les silhouettes et passa à l'arrière-plan. Des lignes rapides et assurées devinrent le sol surmonté de la voûte. Une trace sombre pour représenter le côté du bureau qui projetait une ombre. Des lignes fines et nettes pour la lanterne posée à terre. Des lignes amples et aériennes pour former les jambes et la robe de la créature qui se tenait derrière. Shalan s'immobilisa, tandis que ses doigts traçaient une ligne au charbon imprévue, s'éloignant de la silhouette qu'elle avait esquissée juste derrière Kabzal. Une silhouette qui n'était pas vraiment là, avec un symbole angulaire suspendu au-dessus de son col en guise de tête. Shalan se leva, rejetant sa chaise, serrant son carnet de croquis et son crayon dans les doigts de sa libre main. « Shalan ?» demanda Kabzal en se levant. Elle avait recommencé. « Pourquoi donc ?» La paix qu'elle avait commencé à éprouver alors qu'elle dessinait s'évapora en un battement de cœur, lequel se mit à battre la chamade. Les pressions réapparurent. Kabzal, Jasna, ses frères. Des décisions, des choix, des problèmes. « Tout va bien ?» demanda Kabzal en s'avançant d'un pas vers elle.
« Je suis désolée, » dit-elle. « J'ai commis une erreur. »
Il fronça les sourcils. Sur le côté, Jasna leva la tête, le front plissé.
« Ne vous en faites pas, » dit Kabzal. « Tenez, mangeons un peu de pain et de confiture. Nous pouvons nous calmer, puis vous pourrez terminer. Je me moque bien qu'il y ait une. »
« Il faut que j'y aille, » l'interrompit Shalan, suffoqué. « Je suis désolée. »
Elle dépassa l'ardent abasourdi et quitta précipitamment l'alcôve, évitant soigneusement l'emplacement où se tenait la silhouette dans son dessin. Mais qu'est-ce qui lui arrivait donc? Elle se rua vers l'ascenseur et appela les parches pour qu'il la fasse descendre. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Kabzal se tenait dans le couloir et la regardait. Shalan atteignit l'ascenseur, serrant son carnet de croquis dans sa main. Le cœur battant à tout rompre.
« Calme-toi, » se dit-elle, s'appuyant contre la rambarde de bois de l'ascenseur tandis que les parches commençaient à la faire descendre.
Elle leva les yeux vers le palier vide au-dessus d'elle.
et se surprit à cligner des yeux pour mémoriser cette scène. Elle se remit à dessiner. Elle travailla à gestes concis, tenant son carnet de croquis contre son sage bras. Elle ne disposait pour s'éclairer que de deux sphères minuscules de chaque côté, là où les cordes tendues tremblaient. Elle agissait sans réfléchir, regard braqué vers le haut, se contentant de dessiner. Elle baissa les yeux vers ce qu'elle venait d'esquisser. Deux silhouettes se tenaient sur le palier au-dessus d'elle, vêtues de ses robes trop droites, comme si le tissu était fait de métal. Elle se penchait vers le bas pour la regarder partir. Elle leva de nouveau les yeux. Le palier était vide. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-elle avec une horreur croissante. Quand l'ascenseur atteignit le sol, elle s'éloigna dans un bruissement de jupe. Elle courut quasiment vers la sortie du voile, hésitant près de la porte, ignorant les maîtres serviteurs et les ardents qui la regardèrent d'un air perplexe. Où pouvait-elle aller ? De la sueur coulait le long de ses joues. Où pouvait-on s'enfuir quand on perdait la tête ? Elle traversa la foule de la caverne principale. C'était la fin de l'après-midi, et la ruée du dîner avait commencé. Serviteurs poussant des chariots à dîner, pâles iris regagnant leurs appartements d'un pas nonchalant, érudits marchant avec les mains derrière le dos. Chalan passait entre eux à toute allure, tandis que ses cheveux se dégageaient de son chignon et que l'épingle tombait sur la pierre avec un tintement aigu. Ses cheveux au burn lâchés flottaient derrière elle. Elle atteignit le couloir qui menait à leurs appartements, haletante, cheveux en désordre, et regarda par-dessus son épaule. Au milieu du flot humain, elle avait laissé derrière elle une piste de gens qui la regardaient d'un air perplexe. Presque malgré elle, elle cligna des yeux pour capturer un souvenir. Elle leva de nouveau son carnet, saisit son crayon de charbon dans ses doigts glissants et dessina rapidement ce tableau de la caverne bondée. Rien que de vagues impressions. Des hommes faits de lignes, des femmes faites de courbes, des murs de roches inclinées, sols couverts de tapis, éclats lumineux des lanternes à sphères au mur. Et cinq silhouettes avec des symboles en guise de tête, en robe et cape noire trop raides. Chacune possédait un symbole différent, tordu, inconnu, suspendu au-dessus d'un torse sans tête. Ces créatures évoluaient parmi la foule à l'insu de tous, comme des prédateurs, concentrés sur Chalan. « Je les imagine, c'est tout », s'efforça-t-elle de se dire. « Je suis surmenée, trop de choses pèsent sur moi. » Représentait-elle sa culpabilité ? La pression d'avoir trahi Jasna et menti à Kabzal ? Les choses qu'elle avait faites avant de quitter Jakeved ? Elle s'efforça de rester là et d'attendre, mais ses doigts refusèrent de se tenir tranquilles. Elle cligna des yeux, puis se remit à dessiner sur une nouvelle page. Elle termina d'une main tremblante. Les silhouettes étaient presque sur elle, avec leur effroyable non-tête angulaire flottante, là où aurait dû se trouver un visage. La logique lui dictait qu'elle surréagissait, mais quoi qu'elle puisse se répéter, elle ne parvenait pas à y croire. Elles étaient réelles, et elles venaient vers elle. Elle s'éloigna en courant, surprenant plusieurs serviteurs qui s'approchaient pour lui offrir leur aide. Elle courut, ses pieds chaussés de mules dérapant sur les tapis du couloir, et finit par atteindre la porte des appartements de Jasna. Son carnet de croquis sous le bras, elle l'ouvrit de ses doigts tremblants, puis s'engouffra dans la pièce et claqua la porte derrière elle. Elle la verrouilla de nouveau et se précipita vers sa chambre. Elle claqua cette porte-ci également, puis se retourna pour s'en écarter. La seule lumière dans la pièce provenait des trois marques de diamants dans le grand gobelet de cristal posé sur son meuble de chevet. Elle s'assit sur le lit, puis recula le plus loin possible de la porte, jusqu'à se trouver contre le mur, respirant furieusement par le nez. Elle avait toujours son carnet de croquis sous le bras, bien qu'elle ait perdu le crayon de charbon. Il y en avait d'autres dans son meuble de chevet. « Ne fais pas ça, » se dit-elle. « Reste assise et calme-toi. » Elle éprouva un frisson croissant, une terreur montante. Il fallait qu'elle sache. Elle sortit son charbon à tâtons, puis cligna des yeux et se mit à dessiner sa chambre. Le plafond d'abord, quatre lignes droites, puis le mur, des lignes dans les coins. Ses doigts dessinés sans s'interrompre, représentant le carnet lui-même devant elle, sa sage main couverte et retenant le carnet par derrière. Et ainsi de suite. Jusqu'aux êtres qui se tenaient autour d'elle, avec ces symboles tordus, non rattachés à leurs épaules irrégulières. Ces non-têtes possédaient des angles irréels, des surfaces qui se fondaient de manière étrange et impossible,
La créature qui se tenait à l'avant tendait vers Shallan des doigts trop lisses, à quelques centimètres à peine du côté droit du carnet. « Oh, père des tempêtes !» se dit Shallan, tandis que son crayon de charbon s'immobilisait. La pièce était vide, et pourtant se trouvait face à elle une image de la même pièce remplie de ces créatures. Elles étaient assez proches pour qu'elle soit en mesure de les sentir respirer, si elle le faisait seulement. Avait-elle vraiment éprouvé une sensation de froid dans la pièce? Hésitante, terrifiée mais incapable de s'en empêcher, Shallan laissa tomber son crayon, leva sa libre main vers la droite, et sentit quelque chose. Elle hurla alors, se releva d'un bond sur son lit, lâcha son carnet, recula contre le mur. Avant qu'elle puisse réfléchir consciemment à ce qu'elle était en train de faire, elle luttait avec sa manche, cherchant à sortir le spiricante. C'était la seule chose qu'elle possède qui ressemble à une arme. Non, c'était idiot. Elle ne savait pas s'en servir. Elle était impuissante. À moins que... Bourrasque ! Se dit-elle paniquée. Je ne peux pas m'en servir. Je me le suis interdit. Elle entreprit le processus malgré tout. 10 battements de cœur pour faire sortir le fruit de son péché. Le produit de son acte le plus affreux. Elle fut interrompue à mi-chemin par une voix, étrange mais distincte.
« Qu'êtes-vous ? »
Elle serra sa main contre sa poitrine, perdit l'équilibre sur son lit moelleux, tomba à genoux sur la couverture froissée. Elle tendit une main sur le côté pour s'appuyer au meuble de chevet, ses doigts frôlant le grand gobelet de verre qui s'y trouvait.
« Ce que je suis ?»
murmura-t-elle.
« Je suis terrifiée. »
C'est la vérité. La chambre se transforma autour d'elle. Le lit, le meuble de chevet, son carnet, les murs, le plafond. Tout sembla éclater, prendre la forme de minuscules sphères de verre sombre. Elle se retrouva dans un endroit où le ciel était noir, avec un étrange petit soleil blanc suspendu à l'horizon, trop loin. Shallan hurla lorsqu'elle se retrouva en l'air, tombant en arrière dans une pluie de perles. Des flammes flottaient non loin d'elle, par dizaines, peut-être par centaines, comme des flammes de bougies flottant dans les airs et se déplaçant au gré du vent. Elle atteignit quelque chose. Une mer noire et infinie, sauf qu'elle n'était pas humide. Elle était faite de ces petites perles, un océan entier de minuscules sphères de verre. Elle s'élevait autour d'elle selon un mouvement de houle ondulante. Le souffle coupé, elle battit l'air de ses bras, cherchant à rester à flot.
« Vous voulez que je change ?»
demanda une voix chaude dans sa tête, distincte et différente du murmure glacial qu'elle avait entendu plus tôt. Elle était grave et creuse, et donnait une impression de très grand âge. Elle semblait provenir de sa main, et Shallan comprit qu'elle y serrait quelque chose. L'une des perles. Le mouvement de l'océan de verre menaçait de la tirer vers le bas. Elle donna des coups de pied paniqués, et parvint, sans trop savoir comment, à rester à la surface.
« Je suis telle que je suis depuis une éternité, » dit la voix chaude. « Je dors tellement. Je vais changer. »
« Donnez-moi ce que vous avez. »«
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, aidez-moi. »«
Je vais changer. » Elle éprouva un froid soudain, comme si toute chaleur était aspirée de son corps. Elle hurla lorsque la perle qu'elle tenait entre ses doigts acquit une chaleur soudaine. Elle la laissa tomber alors même que le mouvement de la houle l'attirait vers le bas, les perles roulant les unes par-dessus les autres avec un cliquetis étouffé. Elle tomba en arrière et atterrit sur son lit, de retour dans sa chambre. Près d'elle, le gobelet posé sur son meuble de chevet se mit à fondre. Le verre se transforma en liquide rouge, laissant tomber les trois sphères qu'il contenait sur le dessus inondé du meuble. Le liquide rouge déborda par-dessus les côtés du meuble de chevet et alla s'écraser à terre dans une gerbe d'éclaboussures. Shallan recula, horrifié. Le gobelet s'était transformé en sang. En reculant sous l'effet du choc, elle cogna le meuble de chevet et le fit trembler. Une carafe d'eau en verre avait été posée près du gobelet. Le geste de Shallan la renversa et la fit basculer à terre. Elle alla se briser contre le sol de pierre, soulevant une gerbe de sang.
« C'était une spiricantation, » se dit-elle.
Elle avait transformé le gobelet en sang, qui était l'une des 10 essences. Elle leva la main vers sa tête, regardant fixement le liquide rouge qui s'étalait par terre en flaques. Il semblait y en avoir beaucoup. Elle était complètement abasourdie. La voix, les créatures,
l'océan de perles de verre et le ciel sombre et froid. Tout ça lui était apparu si vite.
« J'ai spiricanté, » se répéta-t-elle. « J'ai réussi. »
Existait-il un lien avec les créatures? Mais elle avait commencé à les voir dans ses dessins avant même de voler le spiricante.
Comment? Qu'est-ce qui...
Elle baissa les yeux vers sa sage main et le spiricante caché dans sa bourse à l'intérieur de sa manche.
« Je ne l'ai pas enfilé, » se dit-elle, « et pourtant je m'en suis servie quand même. »«
Shallan ?»
C'était la voix de Jasna, juste devant la porte de Shallan. La princesse avait dû la suivre. Shallan éprouva une bouffée de terreur lorsqu'elle vit une traînée de sang couler vers la porte. Elle l'avait presque atteinte et passerait en dessous en un battement de cœur. Pourquoi fallait-il que ce soit du sang? Le cœur au bord des lèvres, elle bondit et ses mules absorbèrent le liquide rouge.
« Shallan ?» demanda Jasna d'une voix plus proche. « Qu'est-ce que c'était que ce bruit ?»
Paniquée, Shallan regarda le sang, puis le carnet, rempli de dessins de ces étranges créatures. Et s'il existait vraiment un lien avec le spiricante? Jasna les reconnaîtrait. Il y avait une ombre sous la porte. Elle paniqua et rangea le carnet dans sa malle. Mais le sang allait la condamner. Il y en avait une telle quantité que seule une blessure vraiment grave aurait pu la produire. Jasna s'en apercevrait. Elle le savait. Du sang là où il n'aurait pas dû y en avoir. L'une des 10 essences. Jasna allait savoir ce que Shallan avait fait. Une pensée la traversa. Ce n'était pas une idée brillante, mais c'était une solution, et la seule à sa portée. Elle se mit à genoux et s'empara d'un fragment de la carafe de verre brisée dans sa sage main à travers le tissu de sa manche. Elle prit une inspiration et souleva sa manche droite, puis se servit du verre pour ouvrir une entaille peu profonde dans sa peau. Dans la panique de l'instant, elle ressentit à peine la douleur. Du sang se mit à couler. Lorsque le bouton de porte tourna, Shallan laissa tomber le morceau de verre et s'étendit sur le côté. Elle ferma les yeux, feignant l'inconscience. La porte s'ouvrit. Jasna eut un hoquet et appela aussitôt à l'aide. Elle se précipita aux côtés de Shallan, lui prit le bras et appliqua une pression sur la plaie. Shallan marmonna comme si elle était à peine consciente, serrant sa sage bourse et le spiricante qu'il contenait dans sa sage main. Il n'allait pas l'ouvrir, n'est-ce pas? Elle serra son bras plus près de sa poitrine, frissonnant en silence tandis que d'autres cris et bruits de pas retentissaient, que des serviteurs et des parches se précipitaient dans la pièce, que Jasna appelait davantage d'aide.
« Tout ça, se dit Shallan, ne va pas bien se terminer. »